Vous êtes sur RTL.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Jimmy.
Bonsoir Caroline. Je suis très heureux de vous parler.
Mais moi de même, Jimmy.
Ça fait un drôle d'effet que je vous parle et que vous me répondez comme ça. Ça fait. C'est curieux.
Ah ben parce qu'on est là en direct, hein, je vous le dis, tous les soirs. Donc oui, c'est aussi simple que ça. Vous appelez 09 69 39 10 11 et on se parle tranquillement.
D'accord.
Et j'essaye de vous répondre, oui.
D'accord.
C'est mieux. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait ? Je disais juste un peu de façon, peut-être en une phrase, c'est toujours un peu réducteur de vous annoncer en une phrase que vous n'arriviez plus à tomber amoureux, c'est ça, Jimmy ?
Oui, c'est ça.
Vous avez quel âge aujourd'hui ?
J'ose pas le dire.
Vous n'osez pas le dire ? Vous avez une voix jeune, en tout cas, vous avez une voix...
J'ai 48 ans.
Ah oui, d'accord. Bon, si, vous pouvez le dire encore. Mais vous avez une voix qui fait assez juvénile encore.
Ah bon.
Je ne sais pas si vous avez le physique aussi qui va avec la voix.
Physiquement, je fais beaucoup plus jeune que mon âge.
Ah oui, d'accord. D'accord. Donc la voix est raccord avec votre physique.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que...
Eh bien, comme je expliquais à...
À Paul ou à Caroline ?
Voilà. Apple.
Oui.
Très gentil, très gentil. Et comme j'expliquais à Paul, je n'arrive plus depuis l'âge de 30 ans, 29-30 ans.
Oui.
Je n'ai plus jamais réussi à tomber amoureux d'une fille ou d'une femme. Je ne sais pas si on doit dire fille ou femme.
C'est intéressant, selon justement l'âge que vous avez. C'est intéressant de parler de fille ou de femme.
Oui. C'est vrai. Enfin, on va dire femme pour aller plus vite. Et donc, je n'arrive plus à tomber amoureux d'une femme. Et dans le sens où je n'ose pas d'une part, hein, comme normalement ça se passe quand entre un homme et une femme qui sont amoureux, m'engager. Et quelque part, j'ai peur, pas uniquement de l'avenir que je pourrais avoir, vivre avec cette femme, dont je serai amoureux, mais disons que je me fais une idée tellement haute de l'amour, tel que l'amour avec un grand A, comme je l'ai vécu quand j'étais adolescent, avec une jeune fille de mon âge que j'ai passionnément aimée. Comme je me fais une idée très haute de l'amour, ce que je vais dire n'a rien de péjoratif. Ce que je vais dire peut paraître misogyne, mais je ne suis absolument pas misogyne. Au contraire, je vénère les femmes. Mais je me fais une idée tellement haute de l'amour que les femmes n'arrivent pas à être à la hauteur de ce que j'attends de l'amour tel que je le conçois, c'est-à-dire l'amour passionnel, l'amour fusionnel, quoi.
D'accord. La dernière fois que vous avez été amoureux, c'était quand ?
2002.
C'est précis. Donc 2002 et des mois, vous aviez quel âge ? Vous en souvenez, vous ? On se mérite à faire un petit calcul.
L'année 2002, c'est une année que je me souviens, qui restera gravée dans ma mémoire, car c'est l'année où mon père est décédé. J'avais 29 ans,
d'accord. Oui, donc il était votre père. Vous l'avez perdu jeune. Et vous liez parce que c'est au moment où je vous demande la dernière fois où vous avez été amoureux. C'était cette année-là.
Oui, à peu près, à quelques mois.
Et c'est comme si quelle relation aviez-vous avec votre père?
J'adorais mon père.
Vous adoriez votre père.
Mon père était un homme merveilleux. J'adorais mon père et mon père m'adorait.
Vous êtes fils unique ?
Non, j'ai une sœur.
Oui. Plus jeune ou plus âgée ?
Ma sœur a 39 ans.
D'accord. Oui, donc la perte de votre père a été quelque chose un événement terrible pour vous.
Oui.
Mais vous avez mis fin à votre histoire d'amour à ce moment-là ? Parce que du coup, les deux...
Avant que mon père ne parte, mais... Comment dire Alors, comme il est déjà minuit et quart et qu'il reste que... C'est bientôt la fin de l'émission, je vais...
Oui, on a un quart d'heure encore.
Oui.
Hein.
Oui. Comme je disais à Paul, que je me fais souvent... Je pense souvent à une phrase que m'avait dit mon professeur de théâtre. Et sur le coup, ça m'avait... Cette phrase m'avait interpellé, mais sans plus. Et c'est seulement aujourd'hui, quand je pense à cette phrase, que je me rends compte que mon professeur avait raison.
Alors, et qu'est-ce qu'il vous disait ?
Mon professeur de théâtre, qui était une femme merveilleuse, m'avait dit « Tu restes ta vie ».
Oui. Vous étiez déjà... Mais bon, à cet âge-là, vous étiez quoi, lycéen, c'est ça ?
Non, non, j'avais une vingtaine d'années.
Oui, bon, bah, c'est bien, 20 ans de rêver sa vie, non ?
Oui, mais...
Mais vous continuez à la rêver plus qu'à la vivre, voilà. C'est ça le problème.
Et comme je le disais à Paul, souvent, je rêve, je ne sais pas si je rêve, mais... Enfin, pas rêver au
vous
sens
idéalisez
rêve,
beaucoup les choses.
Voilà.
Vous idéalisez l'amour, les femmes.
Voilà, c'est ça.
Finalement, aucune femme, vous l'avez dit, n'est au fond à la hauteur de cet idéal. Vous en avez rencontré depuis ?
Non.
Non. Vous avez été amoureux depuis, depuis vos 29 ans, 30 ans ?
Depuis mon adolescence jusqu'à l'âge de 29 ans, quoi. J'ai vécu avec quelques jeunes filles de mon âge, comme je le disais, Apple, des grandes histoires d'amour, des histoires d'amour très, très fusionnelles, dont une qui m'a énormément marqué dans le bon sens du terme. Malheureusement, elle m'a quitté. Sinon, je pense que j'étais tellement fou amoureux d'elle que je pense que si elle ne m'avait quitté, alors j'aurais fait ma vie avec elle. Parce que à l'époque, j'avais 17 ans. 16 ans, 17 ans. Elle avait à peu près mon âge. Et même si j'étais adolescent, à l'adolescence, dans l'adolescence une innocence et une certaine méconnaissance, non pas de l'amour, mais le fait de se projeter dans l'avenir. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Et je savais que cette jeune fille... qui avait mon âge à l'époque, 16-17 ans, c'était la femme...
Pardonnez-moi, mais comme on aime quand on a 16 ou 17 ans et que c'est le premier amour.
Ah oui, oui,
et
vrai.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous approchez plutôt des 50 et vous êtes toujours resté dans cette image du premier amour. En plus, c'était pas la fille idéale pour vous, puisqu'elle vous a quitté. Pardonnez-moi, je deviens très terre-à-terre, mais volontairement. Parce que je vous provoque un peu, mais volontairement. Parce que on va avoir peu de temps. Il y a des choses qui m'interpellent parce qu'il y a cette vision très sublimée, un peu immature au fond de l'amour, comme quand on aime la première fois et qu'on croit que c'est pour toujours. Et qu'on a envie de croire que c'est pour toujours. Et puis, il y a une petite part de nous qui demeure comme ça, parce que quand on est amoureux, quand on aime plus exactement quelqu'un, on a envie que ça dure. Mais la vie nous enseigne que, voilà, c'est pas aussi simple, et que les amours fusionnels ne sont pas forcément un modèle. Parce que dans la fusion, on se perd. C'est très agréable, mais... Finalement, c'est aussi difficile d'exister. Mais moi, je voudrais revenir parce que vous me parlez d'un événement important qui est le décès de votre père, qui a été un événement comme si, là, ça avait signé l'arrêt de tout. Et votre mère, elle est en vie, toujours ?
Oui.
D'accord ? Quelle relation avez-vous avec elle ?
Ah, bah, j'adore ma mère.
Oui, mais...
Ma mère, c'est la dernière personne qui me reste dans la vie. Je pense que... Je n'ai jamais eu de pensée suicidaire, ni de pensée noire, de pensée glauque, parce que j'aime la vie. Mais je pense que...
Mais quand même, quoi. Mais parfois, si elle n'était pas là, oui.
Je pense que le jour où ma mère ne sera plus là...
Oui. Donc sans votre mère, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue.
dans le sens où je continuerai à vivre, mais il n'y a plus rien qui pourra me rattacher à la vie.
Oui. Quel couple y formait d'ailleurs vos parents?
Ah, c'était un couple. Ma mère a toujours. Ma mère était amoureuse de mon père comme au premier jour.
Vraiment?
Oui, vraiment.
Ou c'est votre vision d'enfant finalement qui peut...
Non, mais
je vous pose la question. C'est pas. C'est formidable. Il y a des couples qui arrivent à traverser le temps et à rester à s'aimer. Je sais pas d'ailleurs si c'est comme au premier jour, mais parce que l'amour ça évolue aussi au cours d'une vie, comme on évolue au cours d'une vie. Mais vous, j'ai l'impression effectivement en vous écoutant, Jimmy, et c'est intéressant, c'est l'effet que m'a fait votre voix dès le premier temps. Et vous dites d'ailleurs qu'on dit souvent que vous faites plus jeune que votre âge, comme si au fond vous étiez resté à l'adolescence. Au moment où tout est en germe, où on rêve sa vie, comme vous l'avez dit, ce professeur de théâtre, mais vous l'avez rêvé tellement fort que vous n'avez pas osé la vivre.
Vous voulez dire que j'ai le syndrome de Peter Pan ?
Oh, vous savez, moi, j'évite de donner des syndromes comme ça. J'aime pas trop ça. Je trouve ça un peu réducteur. J'aime pas enfermer les gens dans des symptômes ou des syndromes. Mais ça veut dire que vous êtes allé voir un peu de ce côté-là, si vous m'en parlez. Donc vous-même, vous vous posez ce genre de questions, puisque vous avez trouvé ça. Peter Pan, qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas devenir adulte, au fond. Vous avez été chercher un peu de ce côté-là.
Oui, c'est simplement, non pas parce que j'ai cherché sur Internet, mais tout simplement parce que depuis mon enfance, et en particulier, particulièrement l'adolescence, je suis passionné, j'adore la littérature, j'ai lu énormément de livres.
Oui, mais la littérature n'écrit pas forcément sur Peter Pan. Enfin, là, c'est plutôt des, vous voyez, on lit ça quand on est enfant. La fée Clochette.
Oui, par rapport à des livres que j'ai lus, des articles de psychologues qui parlaient de...
Oui, vous vous êtes retrouvé un petit peu, au fond, dans cette image de Peter Pan.
Oui. C'est pour cette raison que j'aime énormément les manières dont parlent les philosophes et les psychologues. Même si ça n'a rien... Un psychologue, c'est pas un philosophe, et un philosophe n'est pas un psychologue, mais j'aime beaucoup leur manière d'appréhender, de voir les choses qui nous entourent.
Oui, vous avez besoin, vous vous posez des questions et vous y trouvez quelques éléments de réponse. Et pourquoi alors vous n'avez pas entrepris une démarche à un moment donné, puisque vous vous intéressez à la philosophie, à la psychologie? Pourquoi à un moment, cette question que vous vous posez, au fond, vous ne tombez plus amoureux
Pourquoi
vous n'allez pas en parler?
La démarche en elle-même ne me non pas me dérangerait, mais non, je n'en vois pas forcément, même si vous êtes psychologue et que je vous ai appelé pour vous parler de mais je ne vois pas forcément la nécessité d'aller voir ne serait-ce qu'une fois par mois un psychologue ou une psychologue.
Vous n'en souffrez pas trop donc de cette situation?
Non, disons que...
Et pourquoi vous m'appelez alors ce soir ?
Non, c'est simplement parce que vous, d'abord vous êtes psychologue et j'aime beaucoup votre façon de voir les choses.
Oui, mais vous avez une demande un peu particulière, c'est-à-dire qu'au fond...
Oui, je voulais avoir votre avis.
Sur quoi ?
Par rapport à tout ce que je vous ai dit, depuis le début de notre conversation.
Tout dépend si vous en souffrez, au fond, de ne pas avoir de vie... amoureuse et sexuelle. Mais peut-être avez-vous une vie sexuelle en n'étant pas amoureux, c'est possible aussi.
Non, mais disons que
vous n'avez... Non, mais je ne veux pas être indiscrète, mais c'est-à-dire que je me demandais, est-ce que vous êtes heureux dans votre vie professionnelle ?
Je ne travaille pas.
Vous ne travaillez pas. D'accord. Et alors, comment vivez-vous, en fait ? Vous avez votre logement ? Vous vivez chez votre mère ?
Oui.
D'accord. Oui, d'où cette inquiétude, parce que votre, je ne sais pas quel âge a votre mère, mais quand même cette angoisse derrière, vous dites le jour où elle sera plus là, comme si votre vie n'avait plus de sens, n'aurait plus de sens. Vous sentiriez perdu au fond, sans elle.
Bah, perdu parce que on a, comme on le dit souvent, on n'a qu'un père et on n'a qu'une mère. Et un père et une mère, ça ne
Oui, mais qu'on quitte, en général.
Oui.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, les enfants, quand ils grandissent, quittent leur père et leur mère, restent en lien pour construire leur vie. Or, vous, il y a quelque chose qui est resté, comme si au fond, vous restez cet enfant qui a perdu son papa et sa maman. Sa maman, elle est là, hein, mais qui a peur de la perdre et qui n'a pas de vie personnelle, de vie d'adulte, un travail, une vie amoureuse, une vie de couple, des enfants éventuellement. Vous êtes resté l'enfant. Et ça, c'est peut-être ça une source de souffrance, au-delà de cette vision très romantique de l'amour que vous avez.
Disons que je regarde la vie qui s'écoule.
Mais oui.
Le temps qui s'écoule.
Oui, c'est douloureux ça un peu. Parce que c'est comme si le temps s'était un peu arrêté pour vous, Jimmy.
Voilà.
C'est-à-dire que les, voilà, vous voyez autour de vous, j'imagine, parmi vos connaissances, des amis que vous avez pu avoir.
Ça me fait penser.
Oui.
Je m'excuse, ça me fait penser à cette phrase que j'adore du célèbre roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu.
Eh oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle en dit, votre mère, d'ailleurs, au fond ? Parce que elle-même pourrait un peu se préoccuper, s'inquiéter, en disant c'est important.
Non, ma mère est... Si, pour une raison ou une autre, pas forcément si je rencontrais une femme, mais même si je partais, si je prenais un appartement.
Oui.
Je sais que... Je ne dis pas qu'elle ne pourrait pas continuer à mener sa vie, parce que oui. Ma mère, mais ça la déstabiliserait, parce que j'ai toujours vécu avec elle, enfin avec elle,
ouais.
Avec mon père à l'époque où mon père était vivant, oui. Mais...
Vous n'êtes jamais parti au fond de la maison ?
Non, jamais.
Oui, donc quand votre père est parti, c'est comme si vous aviez pris un peu sa place.
Oui.
C'est ça qui, enfin, pour vous, et vous voyez quand même quand vous me dites aujourd'hui, là où il y a un peu d'inquiétude, voire un peu d'angoisse, même si actuellement, bon, la vie s'écoule, mais votre mère ne sera pas toujours là, et qu'est-ce qui se passera après ? C'est, je pense, là que ça aurait un véritable intérêt pour vous de faire une démarche. Pour reprendre un peu, pour ne pas rester dans ce temps figé. Il y a quelque chose qui s'est figé, mais une démarche vers un psy. Vous avez peur.
Ça ne dit trop rien.
Mais vous avez peur, et je comprends que vous ayez peur. Parce que pour le moment, au fond, la vie s'écoule.
Voilà,
il y a un confort, un peu, avec par moments beaucoup de questionnements. Mais c'est comme si vous étiez resté un vieux petit garçon qui est dans un confort là, dans un rythme, dans un cocon. Et puis parfois, l'avenir paraît plus menaçant parce que ben, malgré tout, vous réalisez que le temps passe, que les gens ne sont malheureusement pas éternels. Et qu'un jour, le plus tardif possible, évidemment, votre mère ne sera plus là. Et alors là. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que vous soyez un peu accompagnée. Pour trouver, ne serait-ce que quelque chose, un sens à votre vie, en dehors de votre mère. Un projet, une passion, quelque chose. Est-ce que vous avez...
Ma passion, ma passion, c'est le théâtre. Quand j'étais jeune, j'avais 21 ans, j'avais pris pendant 4 ans, 5 ans, 4-5 ans,
oui.
des cours de théâtre dans un, oui. dans un atelier d'une école
c'est
d'un
bien.
Théâtre privé.
Oui.
Et ensuite, j'avais passé le concours d'entrée du conservatoire.
D'accord.
Et j'avais été admis.
Et alors ? Pourquoi vous y êtes allé ?
Non, c'est pas ça, c'est que l'année où je suis rentré au conservatoire, il s'est déroulé un événement dramatique pour moi.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je suis à cause d'une jeune fille qui était dans ma classe au conservatoire et dont j'étais fou amoureux et qui m'a fait tourner en bourrique. J'ai
oui.
vulgairement pété les plombs
oui.
et je suis devenu schizophrène.
Ah oui, d'accord. Oui.
Et donc j'ai été hospitalisé et c'est comme ça que j'ai quitté le conservatoire.
Je comprends,
et
oui. Et oui, je comprends, ça a été une bascule pour vous. Et,
voilà.
et tous ces rêves, justement, que vous aviez,
voilà.
se sont brisés. Oui. Donc, je comprends que vous ayez aussi, que vous éprouviez le besoin de vous replonger dans ce passé
oui.
où vous étiez ce jeune homme si plein de rêves prometteurs. Et puis, il y a la
voilà.
maladie qui est arrivée. Et c'est vrai que ça, c'est une injustice. Parce que ça coupe les ailes.
Voilà.
Mais ça serait important quand même, parce que, au moins d'être accompagné. J'imagine que vous avez un médecin qui vous prescrit un
oui,
traitement.
Oui.
oui, c'est ça.
Dans le cabinet médical où exerce mon médecin traitant et d'autres médecins traitants, il y a une psychologue.
Oui, d'accord.
Et puis, il y a aussi des psychologues au centre médico-psychologique.
Oui.
Dans un
oui.
quart d'heure de
mais
chez
ça vous fait un peu peur au fond.
Voilà.
Oui.
Là je vous parle. Je
vous
parle
voyez votre que... médecin. Vous voyez votre médecin pour le moment. Bah sachez que vous n'êtes pas obligé. Une fois peut-être vous pouvez aller les voir pour parler comme vous l'avez fait avec moi. Vous n'êtes obligé à rien. Mais peut-être pour parler un peu du jeune homme que vous avez été et puis de vos peurs. Ça pourrait vous faire du bien, Jimmy. Vraiment. Vous verrez bien. Il n'y a pas d'obligation.
D'accord.
Je vous embrasse en tout cas. Merci de
beaucoup,
m'avoir appelé.
Caroline.
Merci de votre confiance. Au revoir.
Au revoir.